Ce quatrième épisode vous présente le deuxième thème, histoire des murs à pêche.
Bonne écoute.
Des pages, on en a parlé de ces murs à pêche, comment c'était, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mur à pêche en réalité? Qu'est-ce que c'est pour l'horticulteur, le cultivateur qui est là? Un mur à pêche, c'est un outil de travail. C'est simplement un outil de travail sur lequel il va palisser des arbres, il va confectionner des choses. Les murs à pêche sont constitués de piliers, constitués de pierres et de plâtre. Or, il faut pour tenir un mur à pêche, si vous préférez, fait 2,70 m de hauteur, 55 à la base et 35 en haut. Donc c'est un mur qui est en oblique. Il faut avoir des pierres de moins en moins lourdes pour monter un mur. Donc on construisait ce mur, une partie en plâtre, ouais. Pierre, une partie en terre, pierre. Quand on faisait un pilier en pierre et plâtre, 2 mètres, 4 mètres après, maximum, c'était en principe 2 mètres. On faisait un autre pilier pareil. Entre les deux, on coffrait. On faisait le mur avec de la terre et pierre. À 0,80 m, on faisait un chaînage horizontal de plâtre. C'est-à-dire qu'on rejoignait les deux piliers par une dizaine de centimètres de plâtre, qu'on retrouve encore dans les murs. Hein, ça se voit bien. On recommençait la même opération jusqu'en haut, en utilisant toujours la terre et les pierres de moins en moins lourdes. Le dernier tiers du mur était d'ailleurs fait avec les restants, les gravats qui traînaient à droite et à gauche, et le tout était couronné par un chaperon qui dépassait de 16 cm de chaque côté. Un enduit était fait sur ce mur bâti, un enduit de 2 cm, je dirais même 2 cm 003, sur certains ouvrages le spécifient bien, notamment Alexis le Père. Vous voyez, c'était très précis. Dedans, on pouvait donc mettre, suivant qu'on se trouvait en bas ou en haut, des clous en fer forgé pour palisser les murs. Il y avait deux sortes de clous en fer forgé. Le clou de 5 cm et celui de 7 cm. Celui de 5 cm allait dans les parties où il y avait de la pierre, le plus souvent. Le dernier tiers, qui était constitué souvent de plâtras et tout ça, permettait d'enfoncer un clou de 7 cm dedans. La différence, c'est énorme. Et alors se posait la question, parce que les gens qui travaillaient la terre n'étaient pas riches, il fallait récupérer ces clous pour pouvoir palisser autrement. Et comment faisait-on pour récupérer un clou? Mais comment arrache-t-on un clou qui est en fer forgé et rouillé dans un mur? Eh bien, il fallait tout simplement, c'était vraiment très bête, avec le marteau, vous donnez un coup sur votre clou. Non, sur votre mur, oui, sur votre clou. Oui. Vous enfoncez votre clou. Au lieu de le retirer, vous l'enfoncez.
Oui.
C'est normal.
Oui.
Et c'est comme ça. Donc, vous pouvez l'enlever facilement parce que lorsque vous avez tapé dans le clou, vous décollez la rouille qui est tout autour du clou parce que le clou rouille dans le plâtre.
Ah, voilà.
Si vous arrachez, vous allez arracher un morceau de plâtre comme ça. Là, si vous tapez sur le clou, il va s'enfoncer un peu. Vous décollez la rouille. Vous pouvez retirer tranquillement votre clou sans esquinter votre mur. C'était ça, l'astuce.
L'histoire du jardin, déjà, c'est donc le jardin Pouplier, de son nom, du nom de la dame, qui s'appelait Geneviève, Mademoiselle Geneviève Pouplier, et qui donc a vécu dans cette maison presque depuis sa tendre enfance, en tout cas. Et elle a cultivé avec sa famille les fleurs, de la fleur coupée. Ils faisaient pousser des fleurs et ils allaient les vendre. Alors d'abord, je crois que c'était au marché des Halles. Ils avaient un carreau là-bas. Et puis après, plus tard, avec sa maman, elle a vendu des fleurs au marché d'Aligre. Et elle a fait ça toute sa vie, vendre des fleurs et les cultiver. Voilà. Et donc c'est un peu une des dernières horticultrices ici à Montreuil. C'était une forte personnalité. En fait, nous, l'association du sens de l'humus, qui a été créée en 2006, tout au début, était suite à un appel à projet, se sont retrouvés de l'autre côté, impasse Gobetu, où ils ont eu un espace de 600 mètres carrés, qui est toujours là.
Hein,
voilà, c'est toujours, jardin. C'est notre jardin historique, où cultivent des personnes, des bénévoles. de l'association. Et en 2006, donc après, ça s'est développé. Donc c'était le but principal, le projet de cet asso, c'était la permaculture. On était un peu pionnier en matière de permaculture ici en Île-de-France. Permaculture et bio-intensive. Voilà. Et donc, et surtout, et soigner les sols et l'importance du sol. Voilà. Et puis, pour faire bref, en 2010, Frédéric Gérald, qui est le coordinateur de l'association, a rencontré une personne du jardin ici qui entretenait avec Geneviève. Mmh. Il y a donc des gens de l'association des Murs à Pêche qui venaient aider Geneviève à entretenir le jardin. Et ils avaient créé une association qui s'appelait... J'ai oublié le nom.
C'était pas Murs à Pêche, c'était pas l'association Murs à Pêche.
Non, ça c'était Murs à Pêche, l'association. Mais donc il y avait, c'est créé après, avec Geneviève, ils ont créé l'association des murs pour le maintien des la sauvegarde ou le maintien des murs et des fleurs. Mmh. Voilà, ça c'était l'association de Geneviève avec des personnes qui venaient aider. Et garçons, et voilà, et ma yarn.
Les 9 dixièmes du territoire de Vieux-Montreuil étaient occupés par les horticulteurs. Les horticulteurs vivaient dans le bas Montreuil, dans le centre Montreuil. Et il y avait que...
Vers où ?
Vers la mairie.
Le centre de la ville, si tu veux.
Ma grand-mère habitait rue Victor Hugo, qui est derrière la mairie. Ouais. Tous ces gens étaient, le matin, pour parler de ces gens, tous les gens habitaient... principalement dans le bas Montreuil, dans le centre de Montreuil. Ouais. Donc, ils avaient deux vies. La vie en communauté urbaine. Et le matin, quand ils partaient, avec leur charrette, n'importe quoi, tout ce qu'on voit, ils allaient dans la partie supérieure du territoire, du plateau de Tillemont et tout ça. Et là, ça n'existait plus. Chacun était bien individuel. On rentrait par la petite porte on fermait sa porte de jardin. Et là, pas question que quelqu'un vienne, même le voisin ou l'ami, on ne rentrait pas. C'était un secret. Ce que l'on faisait comme culture, c'était protéger. Et là, on n'avait pas le droit. Si on voulait offenser quelqu'un, on rentrait chez lui. Et là, ça se passait mal, parce que je ne vous ai pas demandé de venir. C'était pour l'espionner, pour savoir s'il avait telle plante. C'était super bien, parce qu'au moins, c'était des gens qui défendaient leurs valeurs personnelles, ils défendaient leurs biens, ils défendaient ce qu'ils produisaient. On ne trouve plus ça maintenant. Ils ont créé le syndicat des cultivateurs en 1887. Ils ont créé la société d'horticulture en 1878 à la suite de cette exposition universelle. Ouais. Ils ont su la rendre régionale en faisant venir d'autres associations pour créer une fédération. Ouais. Parce qu'une fédération ne se crée pas comme ça. C'est une association, la fédération, a regroupé plus de 3000 personnes. Ouais. C'était quand même un monstre. Et quand on veut être entendu par les pouvoirs publics, lorsqu'on n'a qu'un seul représentant au nom d'une fédération qui vient discuter avec vous, c'est pas la même chose que 50 manifestants qui veulent obtenir quelque chose, ou 50 présidents d'associations. Non, la personne qui est habilitée à ça, le président d'une fédération, c'est un poids. Le travail amphithéotique a été fait pour la Fédération des sociétés d'horticulture et syndicats de cultivateurs en 1920 pour une durée de 99 ans, signée donc par le maire de Montreuil, par le président de la société d'horticulture à l'époque, par le président de la fédération. Tous ces gens se connaissaient. Ils n'avaient qu'une idée, comment pouvoir promouvoir l'horticulture, promouvoir la culture et enseigner la culture. Sinon, par le biais d'un jardin-école, d'un jardin, qui était un jardin pratique. À l'époque, ce n'était pas encore le gros jardin-école. Il n'y avait ni les bâtiments à droite, ni les bâtiments à gauche. Le porche, c'était que des terrains. Et tout doucement, ils ont tous travaillé en bonne intelligence pour que ça devienne le jardin-école dans les années 1940-50, jusqu'à 2022 déjà. Mais le jardin-école est toujours là. Plus fréquenté, bien entendu, par les mêmes personnes, ça va de soi. Mais parfois les descendants reviennent nous voir et viennent faire un petit tour dans le musée, là, le petit musée que vous voyez, que j'ai créé en 1992, parce que là c'était pareil. Cette, la salle que vous voyez derrière, devant moi, là, c'était une salle de cours qui a été créée en 1927 quand elle a été construite. C'était la salle de cours du Jardin-École. Les gens venaient pour faire de la culture, travailler le sol, et venaient à l'abri écouter un cours de, comme voilà, l'instituteur est là. Et puis, voilà. Donc il y avait des professeurs de culture potagère, des professeurs d'arboriculture, des professeurs, des grands messieurs, qui malheureusement ne sont plus là, qui vont enseigner aux gens, aux Montreuillois, comment on faisait telle chose. C'était tellement simple. Il y avait beaucoup moins d'habitants, il n'y avait que des cultivateurs pratiquement.
Il
n'y
avait que
ici,
des cultivateurs.
Que des cultivateurs, tout ça, ça n'était que des jardins.
C'est ça.
Et en 1956, ah, bah, oui, moi je suis venu ici travailler au Jardin-École, donc à partir de 1956, ce n'était que des jardins et j'ai vu construire les bâtiments. Donc la rue du Jardin-École, c'était qu'un sentier. 1956, j'ai été donc dans l'école, dans le lycée, qui ne s'appelait pas à l'époque le lycée d'horticulture, bien entendu, qui était simplement qu'un cours complémentaire agricole de l'école Danton. Parce que pour la petite histoire, il y a eu des enfants qui ont voulu faire du, comme leurs parents, de la culture, qui allaient à l'école Danton.
Et
école primaire, construction 1880. C'est quand même un lieu aussi symbolique. Et ces enfants, ils ont été de plus en plus nombreux à venir ici au Jardin-École. Donc, ces enfants partaient de l'école Danton avec leur brouette, venaient jusqu'au Jardin-École travailler et repartaient à l'école. Or, il y a eu une classe, deux classes, trois classes. Mais comment mettre trois classes supplémentaires dans une école qui ne peut pas en avoir ? Ça posait problème dans les années 50. Il a donc été demandé, par le biais du président de la Société d'horticulture, M. Aubin à l'époque, il a été demandé à la mairie la construction d'un cours complémentaire agricole qui dépendait de l'école Danton. Et M. Achille, qui était le directeur de l'école Danton, était aussi le proviseur du cours complémentaire agricole. Et ce, bien entendu, avec le temps, bah, ce cours complémentaire, il a grimpé aussi, quand même, il a évolué, et il est devenu le lycée d'horticulture.
Il m'a remis un petit document, qui était le document qui avait été écrit par un ingénieur agronome, Patrick Bazin, qui avait étudié pendant des heures, les murs à pêche, qui avait fait des entretiens, qui avait mesuré, qui avait dessiné, qui avait pris des photos. Il avait fait un document en pensant que le maire serait super intéressé par ce document. Puis le maire, il visait la zone foncière, quoi. C'était une zone formidable pour faire des constructions, quoi.
Et c'était quel maire à l'époque ?
Brard, Jean-Pierre Brard. Et donc, le maire n'avait pas du tout intéressé par le travail de Patrick Bazin. Au contraire, ça lui sapait son truc, quoi, tout simplement. On n'avait pas du tout l'intention de faire une association. Puis on ne savait même pas ce que c'était que les murs à pêche. Moi, j'ai voulu aller voir, mais je ne voyais rien du tout. Il y avait des grands murs. Et puis, par contre, il y avait à l'époque, en 93, il y avait des concours faits par je ne sais plus quelle chaîne de télévision qui s'appelait Les Grandes Familles. Et une classe de Montreuil, Henri Vallon, avait obtenu le premier prix par un travail qu'il avait fait chez Mlle Pouplier en inventant des martiens qui venaient sur la Terre et qui découvraient qu'il y avait toute une zone blanche. Et donc, ils avaient obtenu le premier prix. Et moi, comme j'ai voulu les rencontrer, les enseignants qui avaient fait ça, puisque je me disais ça peut être un appui, parce que déjà, le SDRIF de 94 annonçait 80% d'urbanisation en Île-de-France. Schéma directeur régional d'Île-de-France. Et donc, ça indiquait que la première couronne serait urbanisée à 80%. On ne savait pas trop comment faire pour lutter contre ça, quoi. Et moi, j'ai pensé qu'on pouvait avoir un appui chez ces enseignants, mais en fait, ils avaient fait comme ça avec leur classe, mais ils n'en avaient rien à fiche des murs à pêche, quoi. Enfin, eux, ce n'était pas leur truc, ils n'étaient pas des militants. Donc, voilà. Et puis, quand j'ai vu que, bon, ils ont dit, oui, on a bien senti des tensions à la mairie, mais bon. Et du coup, on a décidé, j'ai dit à Pascal, il faut faire une association. Et on a fait l'association Murs à pêche. On était quand même amoureux des murs à pêche, parce que moi, ça, c'était un lieu que je n'avais jamais connu. Alors, je me suis précipitée dans tous les livres que je pouvais trouver. On a pu avoir... Alors, les archives, la ville ne voulait pas qu'on les consulte. Hein. Je ne sais pas comment on a fait pour les avoir. On a eu carrière. Enfin, l'association qui s'était formée, c'était la DHM, association de défense du Haut-Montreuil. C'est parce que le maire avait envisagé, il avait déjà fait les plans, sur une ZAC sur toute la moitié ouest du site, qui détruisait tout. Alors les gens, il y avait quand même des gens qui habitaient là, il n'y avait pas énormément, mais il y en avait. Ils ont fait une association, la DHM, et se sont défendus. Et il y avait un gars qui a été très efficace, Ripouille. Et il a obtenu je ne sais combien de signatures à la pétition. Et puis finalement, le maire était dans l'illégalité. Enfin, ils ont eu gain de cause.
Ouais.
Alors, la première réunion qu'on a eue à MAP, moi j'ignorais qu'on avait des salles gratuites à Montreuil, on l'a fait à la maison ouverte. Parce que je connaissais cette maison avant de venir à Montreuil. Mmh. Hein. Mmh. Et on l'a fait avec la DHM. Parce que Pascal était assez séduit par Ripouille, Bernard Ripouille, qui était quand même un homme assez mûr, qui était bien dans sa tête, quoi. Enfin, je sais pas, il était bien. Mmh. Et compétent, efficace. Et on a fait leur réunion avec eux. Alors là, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule. J'avais une copine de mon travail qui était venue. On s'est fait agresser par les gens de la DHM qui étaient persuadés qu'on était des éminences grises de la mairie. Ben, c'est vrai qu'on faisait partie du conseil local de l'environnement, mais ça, c'était pas spécialement... Si tu veux, on s'est fait tellement agresser que j'ai dit à Pascal, on peut pas continuer avec eux. Parce qu'il disait, pourquoi vous avez fait votre association, venez chez nous. Et nous, on disait, mais on n'a pas le même but. Eux défendaient leur propriété personnelle et nous, on défendait les murs à pêche. Mm. C'était quand même pas le même but.
La politique voulue, bah, c'est de conquérir tout cet espace, ces murs à pêche. C'est ça. La politique de la ville, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a 10 ans, c'est pas d'il y a 20 ans. C'était 1950, c'était déjà prévu. Il y avait une optique, c'était on veut prendre toute cette zone de mur pour en faire quelque chose que vous devinez qu'est-ce qu'on peut faire dessus.
Bah,
sauf du jardinage.
Bah oui, surtout donc monsieur Brard qui avait vraiment dit qu'il voulait faire des pavillons.
Il voulait faire un foncier. Il voulait acquérir un foncier énorme de 38 hectares pour pouvoir faire après ce qu'il voulait. Il y a eu donc à ce moment-là une opposition qui s'est créée. Ce n'est pas l'association Murs à Pêche. La première association qui a défendu le projet de ZAC, comme ça
allait se parler,
c'était l'ADHM. La première association qui a défendu les murs à pêche, l'association de défense des habitants de Montreuil, dont le siège social était impasse Gobétu.
Jeanne Sudor nous en a parlé de ça.
En 1990. En 1992, M. Mage, avec l'association MAP, a pris le relais pour défendre les murs à pêche.
C'était bientôt les élections municipales. Il s'est dit, il faut absolument qu'on loue une parcelle sur les murs à pêche avant les élections, parce qu'après les élections, ça sera fichu. Bon, et on a pu... Alors lui, il a voulu deux parcelles, parce qu'on avait deux parcelles qu'on a pu louer. On a eu la chance quand même de pouvoir avoir ça. Parce que Brard nous a toujours combattus, s'est moqué de nous. Il savait se moquer des gens hein, quand il voulait. Bon, ben voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu les parcelles de murs à pêche. Et moi, tous les dimanches matin, j'allais pas à la messe, j'allais au mur à pêche. Il y avait plein de gens qui venaient, des jeunes, tout ça. Enfin, moi, je me suis éclatée, j'étais bouche à oreille sans doute, parce qu'on n'avait pas de site à l'époque. Nicole Huvier est venue rapidement nous rejoindre. Mais c'était de... Ben, il y avait quelques... Je sais pas, c'était... il y avait plein de gens qui venaient au fur et à mesure, quoi. Peut-être pas au début, tout au début. On n'avait pas d'eau, alors il y avait des bidons qui avaient été remplis par la pluie, on les a utilisés, toi. On a débroussaillé, il y avait 2,50 m de ronces sur toute la parcelle qu'on avait choisie. On avait fait tout le tour en voiture pour choisir, et c'était Fantini dans l'impasse Gobetti qui nous avait conseillé de venir là. Mais... Alors tout le monde nous a aidés, tout le monde venait débroussailler, hein. Et les pêchers, les poiriers qui étaient dessous, qui étaient morts, se sont mis de nouveau à vivre.
Ben oui.
Avec de l'air et de l'oxygène, quoi, ils se sont mis à vivre. On avait avait le conseil local d'environnement qui a continué tant que Brard était là, puisque Voynet, c'est Voynet qui l'a fait gicler, quoi. Et c'est grâce à ce conseil local d'environnement, grâce à Nicole Huvier, moi, je ne sais pas, je n'y allais plus à ce moment-là. Ils ont bataillé. Il y avait un ancien vert, Jérémy Zegerman, qui s'était fait séduire par Brard, parce que quand Brard voulait séduire quelqu'un, il y allait. Hein. Et ça, c'est un jeune type, pas mal. Et il l'a mis maire adjoint à l'environnement. Et c'est lui qui... le conseil local d'environnement, et on a proposé un appel à projet.
Voilà.
Et ça, ça a été obtenu. Parce que Brard était persuadé que personne ne voudrait répondre.
Ah, oui.
Et alors qu'il y a eu plein de réponses. Ces appels à projet, ça a été formidable. Parce que quand Dominique Voynet a été là, elle a voulu faire un appel à événement d'une journée sur les murs à pêche. Ça n'a pas du tout pris. Et du coup, elle a fait un appel plus conséquent. Il y a eu d'autres associations qui sont venues aussi.
D'accord.
C'est quand même des moments forts, parce que ça veut dire que au lieu que nous, on était tout seuls au départ, l'association Mur à Pêche. Et là, il y a eu quand même beaucoup d'autres associations qui sont venues. Et encore, après, du temps de Dominique Voynet, il y en a encore eu d'autres. Et actuellement, il y en a plein.
Parce que tu vois, c'est vraiment une histoire d'une communauté paysanne qui invente un truc elle-même, quoi. Donc je pense que ça pourrait parler vachement à l'histoire des gens. Et après, tout ça se heurte à un truc terrible de la société un peu actuelle, c'est que on est sur un site qui a plein de représentations différentes, tu vois. Ça veut dire, typiquement, par exemple, pendant longtemps, c'était vraiment vu, avant que ça passe dans le journal, comme un truc, c'était la zone, quoi. C'est le quartier des gitans, des décharges, des... Et donc les gens n'ont pas envie de y aller, tu vois. C'est une mauvaise image de ça, quoi.
Moi, je les voyais comme une déchetterie réelle, comme un endroit où, quand j'étais petit, parce que j'habitais Jean Moulin avant d'habiter, quand je suis arrivé à Montreuil, je suis arrivé au 24 avenue Jean Moulin. Donc déjà, je les voyais de ma fenêtre, Et puis même quand je suis arrivé, j'ai découvert des volants de Mercedes enfuis sous terre, des trucs, donc ça a peut-être un peu confirmé ce que je voyais déjà. C'était des carcasses, des voitures qui traînaient devant, une déchetterie. Mais vraiment, quand j'étais petit, on en parle des années 2000, ouais. Je suis arrivé en 98. Moi.
Ouais, ouais,
pas bien avant, ça ressemblait à ça, hein. C'était ouais. Les carrières, c'était...
Ouais. Oh, ouais.
Ils avaient commencé déjà les travaux sur les parcs des Beaumont, ouais. Nettoyage de la mare naturelle là, tout en haut.
Oui, oui.
Voilà, c'est à ce moment-là moi que je suis arrivé. Où les gens allaient cacher leur butin, quoi. On se disait ça, quoi. Tout le monde rêvait de trouver un trésor d'Ali Baba. Toute l'histoire des brigands qui ont habité Montreuil, qui auraient pu cacher des choses. C'est fantasmesque. Mais on entend parler dans les quartiers populaires, on entend parler tout le temps. Alors déjà, savoir même... c'est pas que je suis revenu. Savoir même qu'il y avait des cultures à l'époque, etc. Ça m'est arrivé au collège. Ouais, on avait fait déjà une visite, ça commençait déjà, je crois, en 2003-2004, justement. Collège Jean Moulin, on avait fait une visite déjà. On nous avait amené plutôt au jardin école. On commençait déjà à savoir qu'il y avait quelque chose, que les grands péchés s'appelaient les grands péchés. Ah. Alexis Le Père, c'était le jardinier qui avait fait la même chose en Allemagne.
Ouais.
J'étais à la parole errante, c'est marrant, mais François Deberg, un résistant allemand qui avait coupé des lignes. Mais moi, j'ai reçu Lucie Aubrac. On a reçu Lucie Aubrac dans notre classe à l'époque. J'étais à Jean Moulin. De son vivant, c'était quand même quelque chose. Et qui nous racontaient des choses comme ça. Donc moi, quand je me suis retrouvé rue François Deberg, je me suis dit, ouais, il y avait quelque chose, quoi. Ouais. Je ne sais pas, comme par hasard.
C'est possible que l'étranger, ça soit celui-là, que c'est lui qui a les clés de la parcelle, quoi. C'est pas les habitants. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que l'étranger... Il s'est combattu pour garder la parcelle, parce que les loups autour, ça s'appelle les hommes d'État, étaient là pour faire les blocs de béton dans ces jardins. Et ces gens-là, moi j'étais là, je peux en témoigner, ils se sont battus dans les réunions, ils ont bougé pour que ces parcelles-là puissent aujourd'hui exister. Ah, moi, je vous dis sincèrement.
Ça, vous l'avez vu, vous, ah, vous ouais, avez moi, je assisté l'ai vu, à cette lutte.
Je l'ai vu parce que je vous explique, tout au départ, quand j'ai commencé à suivre l'association à mon papa, je me suis retrouvé dans des réunions de quartier. Au départ, on me connaissait, on me disait « Ouija », mais on ne savait pas que je faisais partie de la communauté des gens du voyage. Et j'entendais que des insultes sur les gens du voyage. Donc après, je me suis levé et j'ai commencé à pousser un petit peu, à lever ma voix, quoi. Et on m'a dit, mais Luigi, tu défends ces gens-là? Ben oui, tu vois, ça n'est pas marqué sur mon visage, mais j'en souviens, des gens du voyage. Et c'est là qu'après, bon, ils ont vu qu'en fait, les gens du voyage, c'était des gens comme tout le monde. Donc moi, j'ai vu que les combats qu'ils ont menés aussi pour leur parcelle de terrain qu'aujourd'hui, ils sont en train de nettoyer.
Entre-temps, en 2002, je m'étais intéressée aux Roms grâce à une copine qui avait fait un collectif. Et donc, j'ai soutenu beaucoup les Roms dans les squats. J'adorais les squats et tout. Puis les Roms, ils étaient contents de nous voir. Hein. Ils étaient contents quand on s'intéressait à eux, quoi. Voilà. Et donc, je rencontre Colette Lepage en 2006 sur la place de la mairie. Je ne la connaissais pas. Oui, puis j'étais toute seule, moi, à ce moment-là, elle aussi. Et donc, on a décidé de faire un truc ensemble, quoi. On a essayé de soutenir, on a essayé d'installer des Roms rue de la Montagne Pierreuse, ils ont été expulsés. Alors là, le maire s'était mis en tort parce qu'il avait expulsé sans l'accord de la préfecture. Il n'a pas le droit de faire ça. Alors
là,
Brar. Alors on avait fait faire un courrier signé par un Rome qui, du coup, a été persécuté par le maire. Il s'est barré, le type. Hein. Et donc, finalement, alors on a soutenu comme ça. Il y en avait à la place de la Fraternité, dans un squat. Il y en avait différents. Puis, comment on a vu. Alors, je l'ai invité à voir un film de Colin Serrault. Approche globale, locale pour un désordre global, enfin, oui, je ne sais plus ce que c'est. Et à la fin de la séance, Colette Lepage, elle se lève, elle donne son téléphone à tout le monde et expose son projet. Puis avec Patrick Petitjean qui nous attendait à la sortie. Ouais. Et Petitjean a été la tête de liste, enfin des Verts de Montreuil. Ben, à partir de 1994, il est parti il y a plusieurs années maintenant. Et c'était une personnalité très engagée. Il nous dit, il faut faire une association. Ni elle ni moi n'y avions envie. Hein.
Ben oui.
Mais on l'a fait quand même. Et on a décidé de faire cette association Écodrome. Colette Lepage avait son appartement en face d'un talus bordant l'autoroute A3, où il y avait une famille un peu élargie. Et elle a eu des échanges avec la femme, qui est Eva, qui était quand même très sociable, qui est venue vers elle aussi. Voilà. Et elles ont discuté plantes, parce qu'elle avait un jardin partagé, Colette, dans sa résidence. Et finalement, il y a eu ce projet d'aider cette famille.
Qui était une famille
Rome.
D'où
De Roumanie, oui, c'est ça, de Roumanie.
Ils venaient d'arriver en France.
Non, ils avaient d'abord été à Saint-Denis, ils avaient erré comme
ça
beaucoup
de Roms. Ça faisait quelques années qu'ils étaient en France.
Et donc, cette association, c'était pour les aider, mais alors il y a eu d'autres Roms qui sont rajoutés, y compris ce groupe des murs à pêche. C'était derrière les murs, donc ils étaient bien cachés. Il y avait un groupe important de Roms, quand moi je les ai vus la première fois, c'est avant l'association. Et puis Dominique Voynet avait, comme elle avait fait un projet important pour des Roms, 340 ouais. Roms quand ouais, même, c'est ouais. énorme.
Une mousse.
Elle avait accepté Écodrome du bout des lèvres hein, un peu au départ. Et du coup, elle voulait les expulser, ceux-là qui étaient dans les murs à pêche.
Ceux qui étaient en plus des 340 qu'elle avait aidés.
Je sais qu'après que j'ai arrêté, parce qu'ils m'ont reproché d'arrêter, mais j'ai dit, moi je ne peux plus physiquement et psychiquement. Quand on vieillit, là, on n'a plus la même disponibilité psychique, hein, c'est ce que je me rends compte. C'est dur d'affronter des gens, finalement, quand je ne suis pas en forme. Voilà, mais donc, ils m'ont reproché. Alors, on a voulu que des jeunes prennent la suite, parce qu'ils étaient pas mal, ceux-là. Alors, Écodrome, c'était une association pour aider les Roms à être reconnus en France. L'idée de départ qu'avait eu Colette en voyant ce film de Colin Serrault, c'était de leur faire cultiver la terre pour que ils ne soient pas à la charge de la société, comme on leur reproche toujours, d'être des voleurs ou je ne sais pas quoi, mais qu'ils montrent qu'ils peuvent faire quelque chose. Une famille qui a vraiment investi le travail d'Écodrome,
voilà.
C'était Florine et compagnie. Voilà, mais on a perdu le terrain d'ailleurs. La première parcelle qu'on a obtenue, c'est par Laurence Doumic qui a fait le film, et c'était à la ferme Beaufils, la rue Émile Beaufils, la ferme Moultou. Oui. Voilà. Et on avait un terrain qu'ils ont défriché. Alors, il y avait des arbres et tout. Ils ont tout défriché. Après, il y avait ce groupe de Roms sur les murs à pêche que Dominique Voynet voulait expulser. Et nous, on avait une avocate dans le bureau. On était trois femmes, Colette, moi et l'avocate. L'avocate a dit de renoncer et les expulser. Ils ont reçu le truc d'expulsion le 25 décembre. C'est charmant, comme cadeau de Noël. Et puis, en plus, moi, j'allais au vœu du maire et personne n'était au courant, tu vois. Enfin, c'est dingue, quoi. Et alors, finalement, l'avocate de notre association a gagné contre l'avocate de la mairie. Si bien que le juge a tranché en faveur des Codromes. Parce que, alors, ce que disait Dominique Voynet, d'accord, vous avez gagné, mais alors, il faut que cette famille soit encadrée, quoi. Enfin, ces familles, il y en avait plusieurs. Et donc, on s'est retrouvés avec, je ne sais pas combien de personnes. C'était dur,
c'était
quoi.
C'était beaucoup de monde.
C'était lourd, quoi.
Beaucoup de monde.
Et donc, il y avait l'association 14 qui s'est mise sur le coup, qui voulait continuer ce qu'on avait commencé, nous, mais... Tu sais, ils se sont heurtés quand même à ça a été très dur. Hein. Il y a toujours des familles sur les murs à pêche. Hein. Je les ai connus au mur à pêche, les 14.
C'est le côté de 14, c'est ça ?
Okay. C'est une association. Et je sais que j'avais parlé avec Romain, et puis du coup, il est venu rencontrer Colette. Colette, elle a emballé tout le monde. Hein. Bon, voilà. Et donc, ils ont fait des choses avec les Roms, ils ont fait des constructions, ils les ont embauchés pour construire des murs. Donc, ça se passait très bien. Ça, Charlie est spécialisé dans les trucs anciens. Charlie, c'est un type formidable.
Savoir flécher, il y a des gens qui arrivent en haut. Et qui disent, il est où le mur à pêche ? Bah déjà, il y en a 36 hectares, donc il n'y a pas un mur. Et tu arrives en haut et tu ne comprends pas. Tu as des murs cassés qu'en sont. Puis tu as des murs, c'est des balustrades, mais elles sont dans la prolongation, mais ça n'en sont pas. Enfin, un mur à pêche a une forme particulière, c'est une matière particulière, une hauteur, un chapeau. Bon. Mais en tout cas, les gens ne savent pas où ils sont quand ils arrivent. Et dès qu'ils arrivent dans la prairie, qui est la plus grande parcelle, celle du bas de la rue Pierre de Montreuil, ils disent, OK, ça y est, je suis au mur à pêche. Ben non, mec, tu es à un 20e ou un 30e en superficie de ce que sont les murs à pêche. 8 hectares et demi qui sont classés, 27 hectares qui ne le sont pas et qui sont en train de se faire grignoter sévèrement par les promoteurs. On est là pour empêcher ça. Plus tu proposes des choses, plus les assos qui existent soit grossissent, soit appellent d'autres gens et créent de nouvelles assos, et plus on occupe les territoires, et moins on aura des promoteurs qui pourront nous les prendre avant.
À la réalisation et au montage,
Vladimir Cruels et Matteo Califano de Voix Machine
et Léa Longeau de Didatica.
Émission produite par le collectif Voix Machine avec le soutien du contrat de ville d'Est Ensemble et de la cave de Seine-Saint-Denis.
Une playlist a été constituée à partir des choix musicaux des 17 acteurs rencontrés. Vous la retrouverez dans les différents épisodes.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager leur point de vue.
Merci pour votre confiance et à bientôt pour un prochain épisode. Oh.